en séance. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
L'Europe est cette année l'un des principaux thèmes de travail de l'Académie des sciences morales et politiques, placé sous la présidence de M. Michel Albert. Tous les lundis à 15h en salle des séances, un académicien ou une personnalité extérieure à l'Académie vient présenter une communication consacrée à ce thème. Et le lundi 17 mai 2004, l'Académie accueillait l'ancien ministre des Affaires étrangères de Pologne, Bronisław Geremek. M. Geremek avait choisi d'évoquer la vision européenne des PECO, c'est-à-dire les pays d'Europe continentale et orientale. Nous rejoignons tout de suite la salle des séances.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 10 nouveaux pays viennent de fêter leur accession à l'Union européenne. Le 1er mai, sous le signe du Muguet, ils ont retrouvé une place dans la grande famille qu'ils considéraient depuis un millénaire comme la leur. Ils apportent un potentiel démographique et économique, un espace géographique et un ensemble humain, à une communauté qui s'est formée au cours d'un demi-siècle d'efforts d'intégration dans le contexte d'une Europe dramatiquement divisée. Ils apportent aussi leurs expériences et leurs peurs. Il est bon, à un tel moment, de poser la question : comment ces pays envisagent leur fonctionnement à l'intérieur de l'Union européenne, comment ils comprennent la place de l'Europe dans le monde et comment ils voient l'avenir de la construction européenne. Bref, quelle est leur vision européenne, quelle est leur politique européenne que jusqu'à présent faisait partie de leur politique extérieure et deviendra maintenant la part de lion de leur politique intérieure. Je voudrais ainsi rendre hommage à l'initiative de l'Académie des sciences morales et politiques qui me permet de venir présenter devant l'Académie la vision européenne des pays d'Europe centrale. C'est aussi cette invitation, Monsieur le Président, qui m'a donné un sentiment personnel très particulier auquel vous avez bien voulu faire allusion. Un des rêves d'un Européen de l'autre côté du rideau de fer, c'était d'avoir un passeport dans la poche. Comment pourrais-je penser alors que mon rêve va se réaliser dans la forme que je n'aurai plus besoin d'avoir le passeport dans la poche ? C'est ça, le sentiment d'être le citoyen de l'Union européenne. La politique étrangère est définie de façon générale, non seulement par les raisons géopolitiques, et par les visées politiques, mais aussi par l'histoire vécue d'un peuple. C'est-à-dire par l'expérience du passé et par la mémoire. On ne peut pas ignorer les traumatismes collectifs, les haines et les sympathies, les nostalgies et les idiosyncrasies, parce qu'elles toutes pèsent sur les choix politiques qui se font dans les sociétés démocratiques modernes. Je me réfère ainsi à l'Europe tout entière, pas seulement à l'Europe centrale. Il ne faut pas trop chercher des traits particuliers ou exotiques dans la culture politique des pays de cette région. Une conférence organisée peu après le tournant historique de 1989 et portant le titre « L'Europe des tribus » peut être donnée comme un exemple de cette façon de penser où l'autre Europe était non seulement différente, mais aussi tout à fait éloignée de l'horizon européen. Il est important d'abandonner une telle attitude. Les pays d'Europe centrale sont tout simplement marqués par l'incertitude de leur destin, par la précarité de leur existence nationale, par leur vulnérabilité. István Bibó, un penseur emblématique, aussi bien pour sa Hongrie natale que pour toute l'Europe centrale, écrivait dans un essai en 1946. parler de la mort de la nation ou de son anéantissement passe pour une phrase creuse aux yeux d'un occidental, car s'il peut concevoir l'extermination, l'assujettissement ou l'assimilation lente, l'anéantissement politique survenant du jour au lendemain n'est pour lui qu'une métaphore grandiloquente, alors que pour les nations d'Europe de l'Est, c'est une réalité tangible. Je crois que Bibaud touche, en effet, un des traits caractéristiques de l'Europe centrale, que l'on pourrait définir comme l'incertitude d'existence ou l'angoisse concernant la survie nationale. Si on prend l'exemple de la Pologne, nous nous trouverons devant un fait qui a étonné l'Europe moderne, à savoir le scandale des partages de la Pologne. L'historien anglais de l'Europe, Geoffrey Barraclough, y voit la période finale de l'ordre européen arrêté par la paix de Westphalie. Une des grandes monarchies européennes qui a réussi d'instaurer une respublica, une république, un commonwealth, en tant qu'un corps politique fédéré, pluriethnique, pluriculturel et plurireligieux, disparaissait de la carte politique de l'Europe, déchirée entre ses trois voisins voraces. Quand en 1939, la Pologne, après une vingtaine d'années d'indépendance nationale, fut envahie par l'Allemagne, elle a trouvé le soutien de la part de la Grande-Bretagne et de la France. Mais quand le 17 septembre de la même année, l'armée rouge entrait en Pologne, rendant évident quatrième partage de ces pays entre le Troisième Reich d'Hitler et la Russie de Staline, l'opinion publique européenne était, une fois de plus, stupéfaite, mais aussi indulgente. Le sort de la Pologne peut être considéré comme la justification de l'angoisse séculaire des nations de cette région, du sentiment continu du danger. En reprenant les termes d'István Bibaud, il suffisait pour cela de mettre en doute leur existence. Et pensons à la Slovaquie sans tradition d'indépendance nationale, sauf l'expérience malheureuse de Tiso, aux pays baltes, et aussi un grand et fier pays en dehors de la vague d'élargissement de 2004, qu'est l'Ukraine, qui n'a presque jamais connu l'indépendance nationale. L'histoire compte dans la politique. On a parfois l'impression que la fameuse formule affirmant que les Balkans produisent plus d'histoire qu'ils sont capables à consommer est appliquée aussi à l'égard d'Europe centrale. Si je voudrais m'inscrire en faux contre cela en ce qui concerne l'Europe centrale, c'est seulement dans le sens que nous avons réussi de consommer notre histoire, pour notre bien et pour notre mal. Paul Valéry déclarait que l'histoire est le pire poison que la chimie de l'intellect humain a produit. Comment ne pas lui donner raison quand on voit de quelle façon les victoires et les défaites de jadis sont politiquement utilisées pour empoisonner notre présent. Mais de cette affirmation amère du poète philosophe français, on peut aussi tirer la conclusion que l'histoire devrait être aussi considérée comme la grande productrice des contre-corps ou des barrières immunologiques assurant la défense des sociétés humaines, et que c'est aussi en cela que consiste le rôle de l'histoire en tant que magistra vitae. Pourquoi ne pas appliquer cette conclusion à l'Europe centrale? Avant d'aborder la politique européenne des pays qui, dans le discours politique, sont décrits comme les PECO, les pays d'Europe centrale et orientale, je dois prendre une précaution. Premièrement, je vais présenter ce qui me semble être une tendance majeure dans cette politique. Au-delà des différences entre les partis politiques, il n'y a pas de doute que dans les pays d'accession de 2004, il y a aussi des courants eurosceptiques. Le président de la République tchèque n'hésite pas d'affirmer que son pays, le 1er mai 2004, a perdu sa souveraineté. Ces attitudes restent néanmoins minoritaires. Les référendums sur l'accession, qui ont eu lieu entre mars et septembre 2003, ont donné une réponse claire. La participation au référendum se situait entre 46 pour la Hongrie et 72 pour la Lituanie. Les résultats de la consultation se situaient entre 67% Lettonie et 92% Slovaquie pour la réponse affirmative. On peut affirmer que l'entrée dans l'Union européenne trouve un soutien social majoritaire dans nos pays. D'autre part, j'ai la conscience qu'il n'est pas tout à fait justifié de considérer les 8 pays post-communistes comme un groupe. L'initiative d'établir une structure de coopération particulière entre la Pologne, la Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie, baptisée plus tard comme groupe de Vyšehrad, se heurtait aux méfiances, aux intérêts économiques parfois contradictoires, parfois non complémentaires. La communauté des destins de ces pays au cours de la deuxième moitié du XXe siècle n'a pas formé une base suffisante pour les sentiments de communauté régionale. La politique de la Pologne, mon pays, le plus grand pays dans la région, peut être considéré comme significatif pour toute la région d'Europe centrale, mais certainement elle reste limitée par des intérêts et par la vision de l'avenir qui ne sont propres qu'à elle-même. L'automne des peuples de 1989 est une date charnière dans l'histoire contemporaine de l'Europe parce qu'elle a commencé le retour à la liberté des pays soumis par force à la domination soviétique et au système communiste, ainsi qu'à l'implosion de l'Empire soviétique. Cette date était l'aboutissement d'un processus dont les racines se trouvaient dans l'affirmation de l'opposition démocratique en Pologne et en Tchécoslovaquie dans les années 60 et 70, dans le mouvement polonais Solidarność des 1980-81, dans le message du pape Jean-Paul II réclamant la dimension spirituelle de l'unité européenne et appelant le peuple de l'autre Europe à ne pas avoir peur. Dans la décomposition du système soviétique sous l'effet de la glasnost de Gorbatchev. Ce changement historique a permis l'articulation d'une politique étrangère libre et indépendante autour de deux grandes orientations. La première, c'était l'attachement à l'Occident. La deuxième, c'était le retour à l'Europe. On peut dire à juste titre que toutes les deux n'étaient que des clichés, mais ce genre d'expression stéréotype exprime parfois des phénomènes réels et profonds. L'attachement à l'Occident avait un aspect axiologique et un aspect politique. En contre-courant au grand débat sur le déclin de l'Occident et l'anéantissement de sa force morale, la notion de l'Occident ne cessait de couvrir un ensemble de valeurs de la liberté, de la dignité humaine, de la justice, de la culture, mise en doute par la révolte des masses, le pensait Ortega y Gasset, ainsi que par les idéologies et les systèmes totalitaires. Dans l'Europe de l'Est, la notion de l'Occident avait ainsi un énorme potentiel de défense devant les systèmes totalitaires. En plus, Dans le cadre de l'Occident, il y avait une place pour l'Amérique à côté de l'Europe, les deux continents participant dans le même univers d'idées et de culture. Ce lien trouvait sa prolongation naturelle. L'axiologie mène naturellement à la politique. Dans l'Alliance Atlantique, se référant aux valeurs communes et assurant de façon effective la sécurité dont nos pays avaient besoin urgent. Le retour à l'Europe est un slogan que l'on réfute souvent, puisque les pays de l'Est n'ont jamais quitté l'Europe. On pourrait dire plutôt que c'est l'Europe qui les a abandonnés pour un instant. Il reste que ce slogan exprime les sentiments que la séparation introduite à l'époque de la guerre froide entre deux camps politiques était faite contre la nature de l'unité européenne. Dans le débat passionnant sur les traits particuliers d'une Europe centrale qui a eu lieu dans les années 80, avant et aussi après 1989, on cherchait tout d'abord à souligner que cette région n'avait rien en commun avec l'univers eurasiatique de la Russie. Iosif Brodsky le constatait avec amertume contre Milan Kundera, mais aussi qu'elle était indissoluble de l'Europe sur le plan culturel, économique et politique. C'était aussi une façon de rappeler que les liens culturels et spirituels ne peuvent pas être mis en doute par le décalage économique. L'Europe centrale, tout simplement, ne pouvait pas profiter des bénéfices du plan Marshall ou par l'emprise politique qui était étrangère à la tradition européenne, mais contraire à la volonté de peuples de ce pays. L'autre Europe attendait donc de véritables retrouvailles avec l'Europe pour aller ensemble au-delà de tous les poteaux de Hercule, faire avancer en commun effort l'économie, la technologie, la science et la culture, cultiver les institutions et les règles de la démocratie. L'attachement à l'Occident et le retour à l'Europe formaient ainsi les projets européens des pays de l'Est, sinon le rêve de la liberté. L'OTAN était considérée dans cette vision comme une structure européenne par excellence, avec la participation de l'Amérique, comme c'était le cas au cours du tout XXe siècle. Quand 15 ans après 1989, cet annus mirabilis, les 8 pays qui se sont libérés du communisme se joignent à l'Union européenne, 3 autres, la Roumanie, la Bulgarie, peut-être aussi la Croatie, voulant les suivre le plus rapidement possible. Ce n'est pas par envie de participer dans une alliance économique et profiter seulement des bénéfices du marché unique, ou bien pas seulement pour cela, surtout par l'aspiration à être ensemble avec d'autres peuples européens dans une communauté. C'est bien cette volonté qui définissait la politique européenne de la Pologne et d'autres pays de la région, c'est bien cette volonté qu'on retrouve dans la joie du peuple polonais et d'autres peuples de l'Europe centrale le 1er mai de cette année, le jour de l'entrée dans l'Union européenne. Les pays d'Europe centrale ont concentré leur attention politique après 1989 à la dissolution la plus rapide possible de toutes les structures par lesquelles l'Union soviétique exerçait sa domination sur eux, c'est-à-dire celle du pacte de Varsovie et du Comecon, et sur l'adhésion par leur propre volonté, cette fois-ci, à la communauté européenne et l'Alliance Atlantique. Le pacte de Varsovie fut dissous le 1er juillet 1991 et en 1993, seulement en 1993, les derniers détachements de l'armée soviétique quittèrent les sols polonais. Les négociations de la Pologne avec la communauté européenne commencèrent avec l'établissement des rapports officiels en septembre 1989 et la signature en décembre 1991, du traité européen sur l'association. C'est ainsi que la longue marche vers l'adhésion pouvait conduire à l'élargissement de 2004, précédé de quelques années par les décisions parallèles sur l'élargissement de l'OTAN. Krzysztof Słubiszewski, grand juriste et premier ministre des Affaires étrangères polonais après 1989, parle en ces termes du tournant de la politique étrangère de notre pays. Les principaux buts de la politique étrangère polonaise depuis le tournant de 1989, c'était l'affermissement de la souveraineté et de la sécurité de la Pologne, le soutien de son économie et de son développement culturel, l'obtention pour notre pays d'une forte position en Europe et dans le monde. Notre politique est fondée sur la raison d'État polonaise. Une politique européenne, largement comprise, a un caractère prioritaire. Il est significatif que dans cette formulation des traits principaux de la politique étrangère polonaise, c'est la politique européenne qui est considérée comme sa partie la plus importante. C'est une telle approche à la raison d'État et à l'intérêt national qui permet d'affirmer que les principales aspirations et orientations politiques des pays d'Europe centrale et orientale étaient enracinées dans un sentiment fort d'identité européenne. Dans le processus d'intégration européenne, un des actes fondateurs était la réconciliation entre les adversaires. Sans la réconciliation franco-allemande, il n'y aurait pas d'Union européenne. La Pologne se trouvait en face de la nécessité de réconciliation avec l'Allemagne, mais cela semblait au début difficile, sinon impossible. Chancelier Helmut Kohl avait la ferme volonté de travailler pour que la réconciliation polono-allemande prenne le chemin de la réconciliation entre les Allemands et les Français et de celle entre les Allemands et les Juifs, en y voyant la réalisation du testament de Konrad Adenauer. Malgré toutes les difficultés dues à l'énorme accumulation de griefs, d'injustices et de préjudices, le rapprochement polono-allemand s'est opéré avec une stupéfiante rapidité. La communauté d'intérêts entre la Pologne et l'Allemagne, déclarée en près 1989, contenait dès les débuts un élément européen. C'est dans le cadre de l'unité européenne que la Pologne, soutenue par l'Allemagne, trouvait sa chance de rattraper les retards de son économie, tandis que l'Allemagne, introduisant la Pologne dans l'Union européenne, cessait d'être une puissance frontalière. Mais la réconciliation polono-allemande dépassait les cadres de l'économie et s'inscrivait dans l'affirmation d'une communauté politique. Le triangle de Weimar, la coopération privilégiée entre la France, l'Allemagne et la Pologne, au moment de son lancement en 1991, devait, par la présence de la France, apaiser les craintes des Polonais en face des Allemands, pour devenir ensuite un instrument de l'élargissement de l'Union européenne. Il est important que la Pologne a entrepris aussi un travail de réconciliation nécessaire avec l'Ukraine, ceci avec un succès assez remarquable, et aussi avec la Russie, ce qui est bien plus difficile. Il me semble important et opportun de passer en revue quelques doutes que la politique européenne des pays d'Europe centrale et orientale, et de la Pologne en particulier, puisse susciter dans l'Union européenne. Il vaut la peine d'essayer de les dissiper le lendemain de notre adhésion à l'Union européenne. Le premier en est l'inquiétude sur la sincérité de notre engagement européen. On soutient parfois que dans la culture politique de notre région, l'idée européenne apparaissait seulement en tant qu'une utopie et point comme une stratégie politique. On méconnaît ainsi le fait que le but fondamental de l'intégration européenne n'était pas la renaissance nostalgique de la puissance européenne, mais la paix européenne, d'une part, et l'affirmation de l'intérêt commun européen au-dessus des conflits entre les États-nations qui déchiraient l'Europe au cours de l'histoire. Les pays de l'Est européen le comprennent aussi bien que les pays de l'Ouest européen, puisqu'il s'agit bien d'une expérience tout à fait commune. On ne devrait pas méconnaître non plus que ces pays disposent de traditions fédérales qui prennent une nouvelle importance dans le contexte de l'évolution actuelle de l'Europe. L'Union polono-lituanienne depuis 1569 jusqu'au partage de la Pologne à la fin du XVIIIe siècle était un remarquable succès, une remarquable réalisation d'une idée par excellence fédérale, assurant une coopération de peuples des différentes identités ethniques. Le mémorial de l'affermissement de la paix générale de Stanislas Leszczynski, lancé par le malheureux roi de Pologne de son exil lorrain, ou le plan de l'unification européenne, élaboré en 1804 par le prince Adam Czartoryski, à l'époque ministre des Affaires étrangères de la Russie, cette optique fédérale revenait encore au XXe siècle, quand autour de Pilsudski, on avançait l'idée d'une fédération des États situés entre l'Allemagne et la Russie. Encore pendant la Deuxième Guerre mondiale, on envisageait l'établissement d'une fédération ou confédération des pays d'Europe centrale avec la Pologne, la Tchécoslovaquie en premier lieu, mais aussi la Roumanie. Ces projets fédéraux ne concernaient que le cadre régional de l'Europe centrale. Mais tout comme dans le cas de Benelux, on peut y voir une compréhension de l'idée européenne. Ces idées, initiatives et projets historiques ne sont peut-être une référence suffisante pour l'état actuel de la culture politique polonaise. Mais dans les pays particulièrement sensibles à l'histoire, ce n'est point négligeable. Les traditions fédérales et les visions fédéralistes ne peuvent pas être traitées que comme illustration de la présence de l'idée de l'unité européenne dans la culture polonaise. Par contre, je ne pourrais pas déclarer que les idées fédéralistes soient présentes dans la politique européenne de la Pologne ou dans l'opinion publique de nos pays. Il me semble que les pays d'Europe centrale et orientale, de façon générale, ne voient pas à l'horizon de l'intégration européenne actuelle la formation d'un super-État fédéral, ni d'un empire volontaire et fédéral, mais tout en acceptant que l'Union européenne est à présent une fédération des États et des peuples. Ils voudraient qu'elle devienne une communauté. Il ne faudrait pas que le projet politique européen s'éloigne trop de l'état de conscience des sociétés européennes. Cela concerne aussi bien les anciens que les nouveaux pays membres de l'Union européenne. Et il est aussi important que l'on n'introduise pas d'ambiguïté. Le terme fédéral a bien deux sens dans le langage politique, puisqu'il désigne aussi bien une tendance centralisatrice qu'une tendance à l'autonomie par rapport aux entités politiques qui font partie d'une structure fédérale donnée. Fédéralisme américain confronté au fédéralisme allemand. Il ne faudrait pas oublier aussi que les Tchèques et les Slovaques, aussi bien que le peuple de l'ancienne Yougoslavie, considèrent la fédération comme une réalité imposée et contraire à leur volonté de la liberté. Mais tous ces peuples, sans doute, sans aucun doute, aspirent à l'idée d'une union forte et solidaire. Je suis moins à l'aise en cherchant à dissiper le second doute concernant l'attitude des pays d'Europe centrale et orientale à l'égard de l'affermissement de la dimension politique de l'Union européenne. Les incertitudes du destin national de ces pays, dont j'ai déjà parlé, ont formé une sensibilité particulière à l'égard de la souveraineté récemment retrouvée. Pourtant, L'argument que l'accession signifie la cession d'une certaine partie de la souveraineté, mais renforce les garanties de la survie de l'indépendance nationale, est très certainement valable et largement accepté. Les sondages d'opinion publique dans la plupart de ces pays, en Pologne en particulier, prouvent que l'idée d'une constitution européenne, de l'articulation de la politique étrangère commune et de la défense européenne sont clairement acceptées et soutenues par l'écrasante majorité des citoyens, arrivant jusqu'à plus de 70% de la population. La conviction largement répandue dans ces pays que la bonne continuation de la solidarité euro-atlantique sert les intérêts de l'Europe ne contredit d'aucune façon les projets politiques de l'Union européenne. Rien ne permet de penser qu'il y a une contradiction entre l'intérêt national de chacun de ces pays et l'approfondissement de l'intégration européenne. Les pays d'Europe centrale restent encore faibles et pauvres par rapport aux autres membres de l'Union. Ils voient la chance du rattrapage de leur retard économique dans les politiques de solidarité que seulement une communauté forte et profondément unie peut assurer. Il faudrait néanmoins encore un grand effort d'explication et d'éducation pour convaincre les sociétés de ce nouveau pays que dans la finalité politique de l'intégration, il n'y a pas de danger d'emprise hégémonique et que dans l'évolution politique de la communauté, la priorité est donnée à l'apparition de citoyens européens. Il faudra encore du temps pour que certains malentendus de ces derniers mois et des dernières années puissent disparaître. Dans certains milieux politiques européens, on craint que les pays d'Europe centrale cherchent à déplacer les centres de gravité de l'Union vers l'Est. Il n'y a pas de doute que l'élargissement de 2004 déplace les frontières de l'Union vers l'Est, mais ne change nullement la distribution du potentiel démographique, économique ou politique à l'intérieur de l'Union. Les nouveaux pays sont de façon naturelle, intéressé dans le sort de la Biélorussie et de l'Ukraine. La Roumanie pense à l'avenir du bassin de la mer Noire. Le problème des rapports de l'Union européenne avec la Russie, y compris son exclave de Kaliningrad, importe pour tous les pays de la région. Il est d'importance fondamentale que les pays restants dehors de l'Union européenne ne se sentent pas exclus. Le cadre d'une politique de voisinage dans une Europe plus large, proposée dès les débuts de 2004 par la Commission européenne, doit être encore mieux rempli de contenus concrets. La Pologne a proposé en 2003 une esquisse de la politique orientale de l'Union européenne allant dans ce sens. Il y a des pays qui n'aspirent pas à l'adhésion à l'Union européenne. La Russie, par exemple, n'a jamais exprimé une telle intention. Il y en a d'autres qui voient leur avenir dans l'Union européenne. C'est le cas de l'Ukraine. Il est compréhensible que la Pologne soutienne telles aspirations de son voisin et que la Roumanie soutienne la candidature de la Moldavie, puisque c'est tout simplement dans leur propre intérêt. Mais il faudra une longue marche avant que l'Union européenne puisse envisager un élargissement successif après 2004 et une plus longue marche encore avant que le cas de l'Ukraine ou de la Moldavie puisse y être inclus. Ainsi, on peut penser que les pays d'Europe centrale et orientale apportent à l'Union européenne une activité qui élargit les limites de la stabilisation et de la coopération en dehors des frontières de l'Union européenne, sans mettre l'Union en face de défis trop risqués. Dans la politique, l'élément de confiance joue un rôle capital. C'est pourtant rare que l'on puisse considérer la confiance comme une donne politique naturelle et solide. Dans la plupart des cas, c'est le contraire qui est vrai. La méfiance réciproque fut à l'origine de la mésentente entre la France et l'Allemagne d'une part et la Pologne de l'autre, au sujet de la Constitution européenne, et le blocage pour un certain temps en résultat. Ainsi, si on veut avancer, il faut prendre les risques et faire confiance. Ce risque de confiance est pris par la Pologne et les pays d'Europe centrale et orientale à l'égard de l'Union européenne. Et il faudrait maintenant que l'Union européenne prenne à l'égard des pays d'Europe centrale et orientale des risques de confiance similaires. C'est dans ce contexte que se situe la question de l'Europe à deux vitesses qui inquiète tant le nouveau venu à l'Union européenne. Les différences de niveau économique, du potentiel démographique, de l'état de culture et d'éducation, des traditions et d'aspirations politiques parmi les pays membres de l'Union sont évidentes. On peut les considérer comme les vitesses particulières. Il y a des réseaux de coopération interne à l'intérieur de l'Union dans lesquels certains pays ne peuvent pas ou ne veulent pas encore participer. C'est le cas de Schengen et de l'Euroland. Ces réseaux sont conformes à la philosophie de l'intégration, c'est-à-dire de l'unification de l'Europe, sont ouverts à tous les membres qui veulent y adhérer et qui remplissent les critères d'entrée. La volonté de faire adhérer tous les pays membres dans cette structure de coopération y reste affirmée, et c'est décisif. Mais l'idée de deux vitesses semble être une politique délibérée de diviser l'Europe au moment quand l'élargissement de 2004 a fait apparaître sur l'horizon européen l'unité progressive. N'est-ce l'expression du manque de confiance à l'égard de nouveaux membres et de leur volonté de vivre ensemble dans une communauté qui est politique, économique et sociale à la fois? Un des grands Européens de nos jours, Joschka Fischer, ces derniers mois a démontré de façon brillante et sincère, en prenant congé avec sa propre prise de position du discours à l'université Humboldt il y a 4 ans, que l'idée du groupe pionnier pourrait introduire une division entre les pays pauvres et les pays riches, entre ceux qui sont dans la maison et ceux qui restent dans la cour. Je suis solidaire avec cette analyse et j'y vois un appel à faire confiance à la politique européenne de ceux qui se sont joints à l'Union européenne. Fernand Braudel, il y a un quart de siècle, disait que pour lui, l'Europe n'est ni évidence, ni encore moins un objet de foi. Tout au plus, une réalité qui s'exquise et prend corps devant nous, une réalité fragile, incertaine, provisoire peut-être, ambigu sûrement, à la fois une liberté et une contrainte qu'il nous faut, tour à tour et tout ensemble, éprouver. Nous apprenons à y vivre, tout compte fait, plutôt mal que bien. Nous en savons déjà toutes les faiblesses, tous les égoïsmes qu'elle ne réussit ni à masquer, ni moins encore à maîtriser. Mais nous savons ainsi tout ce qu'elle nous apporte, et plus encore tout ce que son échec nous ferait perdre. Les nouveaux membres de l'Union européenne sont conscients du rôle historique que la France et l'Allemagne jouèrent dans le lancement de l'intégration européenne, dans la gestion de ces processus. Ils sont conscients du rôle grandissant du Royaume-Uni ou de l'Italie dans la construction européenne. Il reste que c'est vers la France et l'Allemagne que se dirigent leurs attentes concernant l'avenir de l'unité européenne. Je prends la liberté de dire qu'il y a bien, en particulier, une place pour un rôle historique de la France. Le témoignage du grand historien français pourrait être le fondement d'une politique européenne de la France qui, à des grands moments historiques, savait s'adresser à l'Europe de façon chaleureuse, généreuse et confiante. Les pays de mon Europe centrale se reconnaîtraient dans un tel message. Monsieur le Président, je cherchais à ne pas utiliser le ton émotionnel en présentant devant cette illustre compagnie les problèmes de la politique européenne, de la vision européenne de l'Europe centrale orientale. Permettez-moi de dire à la fin que je considérais le 1er mai 2004 comme un jour heureux de ma vie et j'en avais pas beaucoup. Je crois aussi que c'est un jour heureux pour l'Europe et que les Polonais et tous les peuples d'Europe centrale n'oublieront jamais le soutien que la France a apporté à la réalisation de leurs rêves. Je vous remercie beaucoup.
C'était l'ancien ministre polonais des Affaires étrangères, M. Bronisław Geremek, devant l'Académie des sciences morales et politiques en séance publique le lundi 17 mai 2004. Bronisław Geremek présentait une communication intitulée « La vision européenne des pays d'Europe continentale et orientale ». Vous pouvez bien sûr retrouver l'intégralité du texte de cette intervention sur le site internet de l'Académie des sciences morales et politiques. Voici l'adresse www.asmp.fr. Le site vous propose également de découvrir l'ensemble des travaux de l'Académie et des académiciens.
Vous écoutez Canal Académie.